Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Soyez les bienvenus sur CNews dans l'édition de la nuit. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Deux mineurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire après le meurtre de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. La piste d'un guet-apens semble se confirmer cette nuit. Vous entendrez les précisions de la procureure de la République de Dunkerque dans un instant. Grosse frayeur ce vendredi au consulat d'Iran à Paris. Un homme menaçant a été interpellé et placé en garde à vue après s'être introduit dans ce consulat. Grâce à l'intervention de la police, ce franco-iranien né en 1963 est finalement sorti par lui-même. Le suspect, déjà connu des services de police, avait sur lui un gilet avec des grenades factices. Nouvelle polémique autour de Jean-Luc Mélenchon, le chef des Insoumis, a comparé le président de l'Université de Lille à Adolf Eichmann. Une comparaison qui a suscité de vives réactions au sein de la classe politique. Toutes les précisions dans ce journal. Et puis nous évoquerons la guerre en Ukraine. Au moins 8 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans des frappes qui ont touché le centre du pays la nuit dernière. Et dans le même temps, l'Ukraine affirme pour la toute première fois avoir abattu un bombardier russe. Vladimir Poutine doit être ramené sur Terre, a affirmé le président ukrainien. Vous l'entendrez, Volodymyr Zelensky, à la fin de ce journal. La procureure de la République de Dunkerque s'est donc exprimée après la mort de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. Deux mineurs ont donc été placés en garde à vue, déjà connus des services de police. Les deux adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés en détention provisoire. On va faire le point sur les derniers éléments de cette enquête avec Célia Gruyère, Olivier Gangloff et Maxime Leguet.
Deux mineurs mis en examen pour assassinat dans l'enquête sur l'agression de Philippe Koopmans. Selon la procureure de Dunkerque, il existe des raisons de penser qu'il s'agit d'un meurtre aggravé par la circonstance de guet-apens. Les deux individus de 14 et 15 ans ont affirmé en garde à vue avoir fixé rendez-vous à la victime via l'application de rencontre Cocoland en se faisant passer pour une jeune fille mineure.
Le mineur de 14 ans reconnaît sa participation. Il admet qu'il a porté des coups de pied, mais il affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime. Le mineur de 15 ans, pour sa part, reconnaît qu'il était présent pendant les faits, mais il réfute avoir porté des coups.
Les deux mineurs ont été placés en détention provisoire et sont connus des services de police pour plusieurs faits.
Le mineur de 14 ans a été déclaré coupable pour des faits de violence commis en juillet 2023, août 2023 et décembre 2023. Le mineur de 15 ans, pour sa part, a été condamné pour des dégradations commises en mars 2022. Il a par ailleurs été déclaré coupable de faits de vol en réunion commis en août 2023.
Une autre enquête est en cours pour des agressions commises dans des circonstances similaires après des rendez-vous fixés sur le site de rencontre.
L'émotion à Grande-Synthe ce vendredi matin, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage au jeune Philippe. Une foule compacte et silencieuse et des habitants forcément bouleversés par ce qu'il s'est passé. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages qui ont été recueillis sur place par Maxime Leguet et Olivier Gangloff.
Ce gamin était sans histoire, très joyeux. Problème, aucun problème. Et puis on est vraiment tous dévastés de cette histoire, quoi.
Ça fait trop mal. Moi, j'ai resté 30 ans à Grande-Synthe, j'ai jamais vu ça. Là, ça fait 8 ans, je suis à 11 ans d'âge, j'attends ça, ça fait mal.
On n'est plus à l'abri.
On n'est plus à l'abri, non. Ça fait trop mal.
Ouais. J'ai jamais vu ça, jamais vu ça. Ça fait 3 jours que j'arrive pas à dormir tellement que quand j'ai appris ça, c'est affreux, c'est terrible. Je ne peux pas imaginer.
On comprend pas ce geste. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, ce geste-là. C'est de la barbarie que je comprends pas du tout, c'est l'horreur.
Une adolescente de 14 ans est décédée en marge de l'attaque au couteau survenue jeudi dans le Bas-Rhin. Elle avait été victime d'un malaise cardiaque lors du confinement de son collège. Deux fillettes âgées de 7 et 11 ans avaient été agressées lors de cet acte. Le suspect interpellé présente des antécédents psychiatriques. À Paris, un homme menaçant a été interpellé et placé en garde à vue après s'être introduit dans le consulat d'Iran. Grâce à l'intervention de la police, ce franco-iranien né en 1963 est finalement sorti par lui-même. Le suspect, déjà connu des services de police, avait sur lui un gilet avec des grenades factices. On va faire le point avec Dounia Tangour, Charles Bagé et Raphaël Lazrec.
Il était aux alentours de 11h ce vendredi matin lorsqu'un homme franco-iranien d'une soixantaine d'années, porteur d'un gilet avec des grenades factices, s'est introduit dans le consulat d'Iran, situé rue Fresnel, à Paris, dans le 16e arrondissement, créant l'inquiétude chez les riverains.
On fait toujours attention parce que c'est l'ambassade d'Iran, on a toujours peur.
Très vite, une opération de police menée par la BRI a permis de le faire sortir pour procéder à son interpellation. L'homme n'avait aucune arme sur lui. Pour l'heure, ses motivations restent à déterminer précisément. Mais selon nos informations, il avait déjà été condamné l'année dernière pour avoir mis le feu à des pneus devant la grille de l'ambassade iranienne, justifiant son acte comme une protestation contre le régime. Il devait très prochainement être jugé en appel.
On en vient à cette nouvelle polémique autour de Jean-Luc Mélenchon. Le chef des Insoumis a comparé le président de l'Université de Lille à Adolf Eichmann. Une comparaison qui a suscité de vives réactions au sein de la classe politique. Les précisions de Thomas Bonnet du service politique de CNews.
Les propos de Jean-Luc Mélenchon ont provoqué un véritable tollé. Le leader de la France insoumise a comparé le président de l'Université de Lille et Adolf Eichmann, criminel nazi, responsable logistique de la solution finale. Beaucoup de réactions dans la classe politique après ces propos, à commencer au sein du gouvernement. Aurore Berger sur l'antenne de CNews qui affirme que chaque jour, la France insoumise franchit un nouveau cap dans l'indécence et l'outrance. Réaction aussi du président Les Républicains de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Il parle d'indignité et il apporte aussi un soutien total à Régis Bordet, le président de l'Université de Lille, honteusement diffamé. Mais il y a aussi eu beaucoup de réactions à gauche et il faut le noter, notamment de la part de certains éditorialistes de gauche qui se sont offusqués publiquement, mais aussi de membres de la NUPES. C'est le cas du député socialiste Arthur Delaporte qui parle d'une faute morale grave. Lui qui dit avoir défendu le principe de liberté de réunion pointe les propos inacceptables de Jean-Luc Mélenchon qui lui a répondu comme pour se justifier en invoquant la banalité du mal, un concept de l'écrivain Hannah Arendt, mais ce n'est pas un argument qui est de nature à convaincre, visiblement, y compris au sein de la gauche.
Et puis la candidate LFI Rima Hassan, convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Dans un communiqué, son avocat dénonce des manœuvres purement politiciennes. La militante franco-palestinienne est en 7e position de la liste insoumise aux élections européennes. Et puis un responsable de la CGT a lui été condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme, justement. 3 jours après l'attaque du 7 octobre, il avait diffusé un tract pro-palestinien sur le site de la CGT Nord. Jean-Paul Delescot devra verser 5 000 euros à l'organisation juive européenne au titre de son préjudice moral. Il a d'ailleurs décidé de faire appel de ses décisions de justice. 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, ont été requis à l'encontre de l'agresseur de Marco. Cet homme juif de 62 ans avait été violemment agressé devant la synagogue du 20e arrondissement de Paris. Les faits s'étaient produits le 1er mars dernier au tribunal correctionnel de Paris. Tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire avec Célia Barotte.
Fendi F a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis probatoire comportant des obligations comme l'interdiction de paraître aux abords des synagogues. Le tribunal correctionnel a également ordonné la révocation totale de son sursis probatoire en cours, soit 18 mois de prison ferme prononcée lors d'une précédente condamnation. À la barre, Marco, dont le visage porte encore les marques des coups de poing et des coups de pied qu'il a reçus, dit qu'il a subi un choc psychologique mais aussi physique. En sortie d'audience, accompagné de ses avocats, le sexagénaire estime que justice a été rendue.
Je pense que c'est pas pour ma cause que j'ai défendu. C'est la cause de tous les juifs de France. C'est pas que moi. Moi, c'est juste le hasard. Je suis parti d'un puzzle. Mais c'est tout. C'est pour toute la communauté juive. Maintenant, les gens vont peut-être réfléchir à 2 fois avant de frapper un juif ou une juive.
Au cours de cette audience, Fendi F a nié la version des faits racontée par Marco. Il a maintenu que c'était l'homme de confession juive qui lui avait porté un coup en premier.
Allez, on va prendre la direction des États-Unis. Dans ce journal, 12 jurés et 6 suppléants ont été choisis pour le procès historique de Donald Trump à New York. Le fond du dossier va donc enfin pouvoir être abordé. L'ancien président américain est jugé pour des paiements dissimulés qui étaient destinés à acheter le silence d'une ancienne star de film X. C'était d'ailleurs à quelques jours du scrutin de 2016, un procès qui intervient à 6 mois de l'élection présidentielle. Les précisions de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
C'est un jury éclectique à l'image de New York. On y trouve 7 hommes et 5 femmes. Ils travaillent dans des domaines différents comme la finance, l'éducation, le commerce ou encore la santé. Tous habitent à Manhattan. Certains lisent le journal libéral, le New York Times. D'autres regardent plutôt la chaîne conservatrice Fox News. Mais ils assurent tous être impartiaux. Leur opinion sur Donald Trump ne devra pas parasiter leur jugement. Ces 12 jurés qui ont déjà prêté serment devant le juge, ils devront rester anonymes en raison à des menaces et des pressions extérieures. Ces jurés qui seront aussi très surveillés. En effet, les avocats vont vérifier qu'ils ne postent rien sur les réseaux sociaux tout le long du procès, car on va rentrer rapidement dans le vif des débats avec les déclarations préliminaires en début de semaine prochaine.
Au Moyen-Orient, la communauté internationale appelle à la retenue après les explosions ce vendredi matin en Iran. Une opération imputée à Israël en représailles à l'attaque sans précédent de l'Iran, c'était le week-end dernier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affirmé que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans cette attaque, qui n'a d'ailleurs provoqué aucun dégât. Toujours à l'étranger, en Ukraine, au moins 8 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans des frappes qui ont touché le centre-est du pays la nuit dernière. Une annonce des autorités ukrainiennes ce vendredi matin. Et dans le même temps, l'Ukraine affirme pour la toute première fois avoir abattu un bombardier stratégique russe. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine doit être ramené sur terre. Ce sont ses propos, on l'écoute.
Putin must be brought down to earth. And our sky must become safe.
Poutine doit être ramené sur terre et notre ciel doit redevenir sûr. Cela dépend entièrement de votre choix. Le choix de savoir si la vie a la même valeur partout, le choix de savoir si vous avez une attitude égale envers tous les partenaires, le choix de savoir si nous sommes vraiment des alliés.
Choice whether you have equal attitude to all partners. Choice whether we indeed are allies.
Retour en France, on va parler immobilier à présent et le marché qui reprend son souffle, enfin grâce au recul des taux d'intérêt. On est d'ailleurs passé sous la barre des 4% pour un crédit sur 15 ans. C'est encore une reprise timide, mais c'est plutôt bien parti, comme nous l'explique notre journaliste économie à CNews, Éric de Ritmaten.
Oui, c'est plutôt bien parti. J'ai pu consulter la FNAIM, la Fédération Nationale des Agents Immobiliers. Et c'est vrai qu'on est plutôt optimiste dans la profession. Alors bien sûr, il faut que les choses continuent comme cela, qu'il n'y ait pas, bien sûr, de nouvelles crises internationales qui feraient de nouveau monter les taux. Mais si les taux se stabilisent, c'est parce que les banques font des efforts commerciaux pour attirer de nouveau le client. Et depuis le mois de janvier, il faut bien reconnaître que ces taux ont reculé de 0,1%. Tous les mois. Et donc on est passé sous la barre des 4% pour un crédit sur 15 ans hors assurance, bien sûr. Alors selon l'Observatoire Crédit Logement, la baisse va continuer. On passerait à 3,3% en fin d'année, puis 2,75% fin 2025. Voilà qui devrait débloquer le marché. Et c'est d'ailleurs très urgent parce que les transactions continuent de chuter malgré les prix qui baissent. Le blocage vient des crédits, parce que les banques ont longtemps hésité à délivrer ces crédits. Et du coup, on enregistre sur 12 mois consécutifs une chute de transactions de 16%, ce qui est considérable. Et donc, les banques ont décidé de changer de stratégie pour attirer des clients. Parce que la BCE, pour l'instant, elle n'a pas l'intention de baisser les taux. Il faudra attendre fin juin ou juillet pour obtenir éventuellement une détente sur les taux d'intérêt. Et encore, ce n'est pas sûr, parce que si la situation internationale se dégrade, si l'inflation repart, les taux d'intérêt ne bougeront pas. En attendant, les professionnels de l'immobilier attendent toujours un signal de l'État. Et oui, ce signal ne vient pas. Il faudrait des incitations à l'investissement locatif, par exemple. Mais vu les finances de l'État, eh bien, il n'y a plus de cadeau fiscal à espérer.
On va évoquer à présent une maladie très peu connue en France, le CESPIS. Pourtant, de nombreux Français sont touchés. On compte sur le territoire 350 cas pour 100 000 habitants. Et les plus à risque sont les bébés et les personnes âgées. Explication, c'est la Gruyère, Camille Guédon.
C'est une réponse anormale de notre corps face à une infection. Une perte de contrôle immunitaire qui peut mettre en danger les organes vitaux. Le sepsis touche chaque année près de 50 millions de personnes dans le monde. En France, 80 000 personnes décèdent chaque année selon le professeur Djilali Annan.
Cette perte de contrôle du système immunitaire, elle peut soit se faire en excès, autrement dit, le système immunitaire ne va pas se contenter d'éradiquer le microbe, il va en plus endommager nos organes vitaux. Ou alors, à l'inverse, la réponse immunitaire peut être sidérée. Et à ce moment-là, l'organisme n'est plus capable de se défendre, y compris contre les microbes avec lesquels on vit tous les jours.
Fatigue excessive, perte de concentration, fièvre sont des symptômes courants de cette maladie. Pour ce médecin, la prévention est primordiale.
La prévention, c'est d'abord l'éducation. Certains pays, comme les pays scandinaves, ont inclus des programmes d'éducation pour la prévention du sepsis dans les écoles. Le premier élément de la prévention, c'est l'hygiène, puisqu'il s'agit, dans tous les cas de sepsis, le point de départ, c'est bien un agent infectieux, un agent pathogène, une bactérie ou un virus.
Un centre de recherche mondial va être construit en région parisienne. Le but, réduire de moitié la mortalité du sepsis dans les 10 ans à venir.
Et enfin, cette très belle histoire, un éboueur fera partie des relayeurs de la flamme olympique. Pas n'importe lequel, il s'agit de Ludovic, une grande star de TikTok. Vous avez d'ailleurs sûrement déjà vu passer une vidéo de cet éboueur au chapeau coloré qui montre son travail dans la joie et la bonne humeur. Il réalise un rêve en étant l'un des porteurs de cette flamme. Donc, on va l'écouter ensemble juste avant le journal des sports.
Moi, petit Ludovic que je suis, petit balayeur, petit éboueur, je vais me retrouver avec le symbole de la paix dans les mains. J'ai hâte d'y être parce que j'ai un message tellement important. Il va y avoir des milliards et des milliards de gens qui vont regarder. Je vais essayer de représenter comme il se doit la propreté de la planète. J'y crois toujours pas, faut pas croire. Pour moi, c'est du rêve, là.
Et c'est sur ce très beau message que se termine ce journal. Vous restez avec nous sur CNews, on va parler sport dans un instant. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue 1 et la victoire de l'OGC Nice ce vendredi soir. À domicile, les Niçois se sont logiquement imposés 3-0 face à Lorient. Morgan Sanson, Jérémy Boga et Evan Guessant sont les buteurs côté Aiglon. Grâce à cette belle victoire, Nice remonte à la 5e place du classement et enfonce les Lorientais à la 17e place de ce classement de Ligue 1. Du football toujours, Marseille poursuit son rêve européen. Les Olympiens tombeurs du Benfica Lisbonne ce jeudi pointent à une triste 9e place en championnat. Mais se sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa, une qualification qui montre une nouvelle fois la relation très particulière entre l'OM et les coupes européennes. Le sujet de Thomas Zineski.
Qui aurait osé imaginer l'OM ici, il n'y a ne serait-ce que 2 mois? À Marseille, ce n'est même pas un débat. L'ADN de l'OM, c'est l'Europe. Le club disputera la 8e demi-finale continentale de son histoire. Loin, très loin déjà, des multiples crises qui ont ébranlé le club cette saison. Alors, quand la finale de la Ligue Europa est à portée de main.
On rêve de tout. On rêve de tout. C'est une compétition qui nous va bien. Vous êtes demi-finaliste d'une Coupe d'Europe en ayant éliminé trois clubs titrés.
Une épopée fantastique qui mènera la barque olympienne en Lombardie. Car oui, comme si toutes les planètes semblaient s'aligner, ce n'est pas Liverpool, mais l'Atalanta, 6e de Serie A, qui attend l'OM en demi-finale.
Franchement, c'est génial, ça nous fait du bien, ça fait du bien pour le petit cœur. Et bah, j'imagine que les supporters sont heureux, voilà. On sera prêts, on sera au rendez-vous.
Et le Vélodrome aussi, car distancé en championnat, à Marseille, il ne reste que l'Europe pour rêver.
Et enfin, 5 ans après, le Grand Prix de Chine est de retour sur les antennes du groupe Canal. Un événement qui n'était plus apparu dans les calendriers de Formule 1 depuis 2019. À Shanghai, les qualifications ont vu le Britannique Lando Norris prendre la pole position devant son compatriote Lewis Hamilton. Alors après cette séance de qualification sprint, à quoi doit-on s'attendre sur le circuit chinois ce week-end? Les précisions sur place de Laurent Dupin et Franck Montagnier.
La Chine accueille le cinquième Grand Prix de l'année, mais donc le premier sprint, Franck Montagny, c'est course condensée, un peu plus de 100 km, 19 tours. Norris, Hamilton en première ligne, Verstappen quatrième, les Ferrari derrière. À quoi vous attendez-vous pour ce départ, Franck ?
Ouais, je m'attends à beaucoup de choses, en fait, à tout et à n'importe quoi. C'est le premier sprint, comme vous l'avez dit, très peu d'essais, une seule séance d'une petite heure qui a été en plus interrompue avec un incident sur la piste. Enfin bref, la pluie qui est venue, donc ça donne pas mal de choses, en fait, pas mal d'incertitudes, une pole position inattendue. Je vous rappelle quand même que McLaren, notamment avec Norris, avait dit ce circuit nous convient pas du tout, ça va être compliqué pour nous. Boum, pole position de la sprint. Verstappen qui part quatrième. On a des Ferrari qui sont derrière un petit peu en retrait. Bref, il peut se passer beaucoup de choses. La dégradation des pneus, on ne la connaît pas. Le circuit, il est nouveau. Il a plu cette nuit, donc ça va être rincé. On ne sait pas trop comment ça va s'adapter, tout ça. Bref, il faudra travailler avec nous, ça c'est sûr et certain.
L'asphalte est nouveau. Le circuit, on n'était pas venu depuis 2019. Et puis, il y a ce nouveau format en sprint cette année. On a un petit peu changé l'organisation des séances. On va donc d'abord faire ce sprint dès le début de la journée pour les pilotes. Ouais. Puis il y aura, 3 heures plus tard, la qualification pour le Grand Prix. Ça, c'est important d'avoir en tête aussi.
Oui, c'est bien parce que ça donne 2 chances pour toutes les écuries, pour toutes les équipes. On peut travailler sur les voitures entre les 2 Grands Prix, entre les 2 formats après la sprint, avant d'attaquer la qualification de la vraie course. Donc ça va donner un petit peu plus de champ libre à toutes les équipes. On va pouvoir prendre des risques très certainement pendant ce sprint, puisque derrière, on pourra toucher la voiture, la changer, la perfectionner pour la qualification. Il y a beaucoup d'intensité dans ce samedi qui arrive.
Eh bien, rendez-vous à 4h40 du matin pour le premier sprint de l'année, puis 8h40 pour la qualification qui déterminera la grille du départ du Grand Prix de dimanche.
Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. 2 mineurs ont donc été mis en examen et placés en détention provisoire après la mort de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. La piste d'un guet-apens semble désormais se confirmer. Vous entendrez dans notre prochain journal les précisions de la procureure de la République de Dunkerque qui s'est exprimée ce vendredi. Je vous souhaite une très belle nuit, un excellent week-end sur notre antenne et je vous dis donc à tout de suite pour une prochaine édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.